Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, deuxième cassette, première face, page 42. Chapitre 7, le médaillon. J'avais été acheté par un monsieur et une dame qui avaient une fille de 12 ans, toujours souffrante, et qui s'ennuyait. Elle vivait à la campagne et seule, car elle n'avait pas d'amis de son âge. Son père ne s'occupait pas d'elle. Sa maman l'aimait assez, mais elle ne pouvait pas souffrir de lui voir aimer personne, pas même des bêtes. Pourtant, comme le médecin avait ordonné de la distraction, elle pensa que des promenades à âne l'amuseraient suffisamment. Ma petite maîtresse s'appelait Pauline. Elle était triste et souvent malade, très douce, très bonne et très jolie. Tous les jours, elle me montait. Je la menais promener dans les jolis chemins et les jolis petits bois que je connaissais. Dans le commencement, un domestique ou une femme de chambre l'accompagnait, mais quand on vit combien j'étais doux, bon et soigneux pour ma petite maîtresse, on la laissa aller seule. Elle m'appela Cadichon, C-A-D-I-C-H-O-N. Ce nom m'est resté. « Va te promener avec Cadichon, lui disait son père. Avec un âne comme celui-là, il n'y a pas de danger. Il a autant d'esprit qu'un homme et saura toujours te ramener à la maison. » Nous sortions donc ensemble. Quand elle était fatiguée de marcher, je me rangeais contre une butte de terre ou bien je descendais dans un petit fossé pour qu'elle pût monter facilement sur mon dos. Je la menais près des noisetiers chargés de noisettes. Je m'arrêtais pour la laisser en cueillir à son aile. Ma petite maîtresse m'aimait beaucoup. Elle me soignait, me caressait. Quand il faisait mauvais et que nous ne pouvions pas sortir, elle venait me voir dans mon écurie. Elle m'apportait du pain, de l'herbe fraîche, des feuilles de salade, des carottes. Elle restait avec moi longtemps, bien longtemps. Elle me parlait, croyant que je ne la comprenais pas. Elle me contait ses petits chagrins, et quelquefois, elle pleurait.
« Oh, mon pauvre Cadichon, tu es un âne et tu ne peux me comprendre. Et pourtant, tu es mon seul ami. Car à toi seul, je puis dire tout ce que je pense. Maman m'aime, mais elle est jalouse. Elle veut que je n'aime qu'elle. Je ne connais personne de mon âge et je m'ennuie. »
Et Pauline pleurait et me caressait. Je l'aimais aussi. Et je la plaignais, cette pauvre petite. Quand elle était près de moi, j'avais soin de ne pas bouger, de peur de la blesser avec mes pattes. Un jour, je vis Pauline accourir vers moi toute joyeuse.
« Cadichon, Cadichon, maman m'a donné un médaillon de ses cheveux. Je veux y ajouter des tiens, car tu es aussi mon ami. Je t'aime, et j'aurai ainsi les cheveux de ceux que j'aime le plus au monde. »
En effet, Pauline coupa du poil à ma crinière, ouvrit son médaillon, et mêla les poils de ma crinière avec les cheveux de sa maman. J'étais heureux de voir combien Pauline m'aimait. J'étais fier de voir mes poils dans un médaillon, mais je dois avouer qu'il ne faisait pas un joli effet. Gris, dur, épais, il faisait paraître les cheveux de la maman rudes et affreux. Pauline ne le voyait pas. Elle tournait dans tous les sens et admirait son médaillon lorsque la maman entra.
Que tu regardes là? C'est mon médaillon, maman, répondit Pauline en le cachant à moitié. Pourquoi l'as-tu apporté ici? Pour le faire voir à Cadichon. Quelle sottise, en vérité! Pauline, tu perds la tête avec ton Cadichon, comme s'il pouvait comprendre que c'est un médaillon de feu. Je vous assure, maman, qu'il comprend très bien. Il m'a laissé la main quand.
Pauline rougit et se tut.
Eh bien, pourquoi n'acceptes-tu pas? À quel propos Cadichon t'a-t-il laissé la main? Maman, j'aime mieux ne pas vous le dire. J'ai peur que vous me grondiez. Que donc, voyons, parle! Quelle bêtise as-tu faite encore? Ce n'est pas une bêtise, maman, au contraire. Alors de quoi as-tu peur? Je parie que tu as donné à Cadichon de la voix à le rendre malade. Non, je ne lui ai rien donné, au contraire. Comment au contraire? Écoute, Pauline, tu n'as pas science. Je veux que tu me dises ce que tu as fait. Et pourquoi tu m'as quitté depuis près d'une heure?
En effet, l'arrangement de mes poils avait été très long. Il avait fallu enlever le papier collé derrière le médaillon, ôter le verre, placer les poils et recoller le tout. Pauline hésita encore un instant, Puis elle dit bien bas et en hésitant bien fort.
J'ai coupé des poils de cabochon pour, eh bien, assez bon, pourquoi faire? Pour mettre dans le médaillon. Dans quel médaillon? Dans celui que vous m'avez donné. Celui que je t'ai donné avec mes cheveux. Et qu'as-tu fait de mes cheveux? Ils y sont toujours. Les voilà, répondit la pauvre Pauline en présentant le médaillon. Mes cheveux, mêlés avec les poils de l'âne, s'écria la maman avec emportement. Ah, oh, c'est trop fort! Vous ne méritez pas, mademoiselle, le présent que je vous ai fait. Vous mettre au rang d'un âne. Témoignez à un âne la même tendresse qu'à moi.
Et arrachant le médaillon des mains de la malheureuse Pauline stupéfaite, elle le lança à terre, piétina dessus et le brisa en mille morceaux. Puis, sans regarder sa fille, elle sortit de l'écurie en fermant la porte avec violence. Blanc ! Pauline, surprise, effrayée de cette colère subite, resta un moment immobile. Elle ne tarda pas à éclater en sanglots et se jetant à mon cou, elle me dit
« Cabochon, cabochon, tu vois comment on me traite. On ne veut pas que je t'aime, mais je t'aimerai malgré eux et plus que. Parce que toi tu es bon, tu ne grondes jamais, tu ne me causes jamais aucun chagrin, et tu cherches à m'amuser dans nos promenades. Hélas, cabochon, quel malheur que tu ne puisses ni me comprendre ni me parler. Que de choses je te dirais. »
Pauline se tut. Elle se jeta par terre et continua à pleurer doucement. J'étais touché et attristé de son chagrin, mais je ne pouvais pas la consoler, ni même lui faire savoir que je la comprenais. J'éprouvais une colère furieuse contre cette mère qui, par bêtise ou par excès de tendresse pour sa fille, la rendait malheureuse. Si j'avais pu, je lui aurais fait comprendre le chagrin qu'elle causait à Pauline, le mal qu'elle faisait à cette santé si délicate. Mais je ne pouvais pas parler, et je regardais avec tristesse couler les larmes de Pauline. Un quart d'heure à peine s'était écoulé depuis le départ de la maman, lorsqu'une femme de chambre ouvrit la porte, appela Pauline et lui dit
« Mademoiselle, votre maman vous demande. Elle ne veut pas que vous restiez à l'écurie de Cabochon, ni même que vous y entriez. Cabochon, mon pauvre Cabochon, on ne veut donc plus que je le voie. Tu sais, mademoiselle, mais seulement quand vous irez en promenade. Votre maman dit que votre place est au salon et pas à l'écurie. »
Pauline ne répliqua pas. Elle savait que sa maman voulait être obéie. Elle m'embrassa une dernière fois. Je sentis couler ses larmes sur mon cou. Elle sortit et ne rentra plus. Depuis ce temps, Pauline devint plus triste et plus souffrante. Elle toussait. Je la voyais pâlir et maigrir. Le mauvais temps rendait nos promenades plus rares et moins longues. Quand on m'amenait devant le perron du château, Pauline montait sur mon dos sans me parler. Mais quand nous étions hors de vue, elle sautait à terre, me caressait, me racontait ses chagrins de tous les jours pour soulager son cœur, et pensant que je ne pouvais pas la comprendre. C'est ainsi que j'appris que sa maman était restée de mauvaise humeur et maussade depuis l'aventure du médaillon, que Pauline s'ennuyait et s'attristait plus que jamais, et que la maladie dont elle souffrait devenait tous les jours plus grave. Chapitre 8. L'incendie. Un soir que je commençais à m'endormir, je fus réveillé par des cris. Au feu !
Au feu !
Au feu ! Au feu ! Inquiet, effrayé, je cherchais à me débarrasser de la courroie qui me retenait. Mais j'eus beau tirer, me rouler à terre, la maudite courroie ne cassait pas. J'eus enfin l'heureuse idée de la couper avec mes dents. J'y parvins après quelques efforts. La lueur de l'incendie éclairait ma pauvre écurie. Les cris, le bruit augmentaient. J'entendais les lamentations des domestiques, le craquement des murs, des planchers qui s'écroulaient, le ronflement des flammes. La fumée pénétrait déjà dans mon écurie et personne ne songeait à moi. Personne n'avait la charitable pensée d'ouvrir seulement ma porte pour me faire échapper. Les flammes augmentaient de violence. Je sentais une chaleur incommode qui commençait à me suffoquer. C'est fini, me dis-je. Je suis condamné à brûler vif. Quelle mort affreuse. Oh, Pauline, ma chère maîtresse, vous avez oublié votre pauvre cabochon. À peine avais-je, non pas prononcé, mais pensé ces paroles, que ma porte s'ouvrit avec violence, et j'entendis la voix terrifiée de Pauline qui m'appelait.
Cabisson, Cabisson !
Heureux d'être sauvé, je m'élançai vers elle, et nous allions passer la porte, or qu'un craquement épouvantable nous fit reculer. Crac, badaboum, broum ! Un bâtiment en face de mon écurie s'était écroulé. Ses débris bouchaient tout le passage. Ma pauvre maîtresse devait périr pour avoir voulu me sauver. La fumée, la poussière de l'éboulement et la chaleur nous suffoquaient. Pauline se laissa tomber près de moi. Je pris subitement un parti dangereux, mais qui seul pouvait nous sauver. Je saisis avec mes dents la robe de ma petite maîtresse presque évanouie et je m'élançai à travers les poutres enflammées qui couvraient la terre. J'eus le bonheur de tout traverser sans que sa robe prît feu. Je m'arrêtai pour voir de quel côté je devais me diriger. Tout brûlait autour de nous. Désespéré, découragé, j'allais poser Pauline à terre, complètement évanouie, lorsque j'aperçus une cave ouverte. Je m'y précipitai, sachant bien que nous serions en sûreté, dans les caves voûtées du château. Je déposai Pauline près d'un baquet plein d'eau, afin qu'elle puisse en mouiller le front et les tempes en revenant à elle, ce qui ne tarda pas à arriver. Quand elle se vit sauvée et à l'abri de tout danger, elle se jeta à genoux et fit une prière touchante pour remercier Dieu de l'avoir préservée d'un si terrible danger. Ensuite, elle me remercia avec une tendresse et une reconnaissance qui m'attendrirent. Elle but quelques gorgées de l'eau du baquet et écouta. Le feu continuait ses ravages, tout brûlait. On entendait encore quelques cris, mais vaguement et sans pouvoir reconnaître les voix.
Pauvre maman et pauvre papa, ils doivent croire que j'ai péri en leur désobéissant, en allant à la recherche de Cabisson. Maintenant, il faut attendre que le feu soit éteint. Nous passerons sans doute la nuit dans la cave. Bon Cabisson, c'est grâce à toi que j'ai vu.
Elle ne parla plus. Elle s'était assise sur une caisse renversée et je vis qu'elle dormait. Sa tête était appuyée sur un tonneau vide. Je me sentais fatigué et j'avais soif. Je bus l'eau du baquet, je m'étendis près de la porte et je ne tardai pas à m'endormir de mon côté. Je me réveillai au petit jour. Pauline dormait encore. Je me levai doucement. J'allai à la porte que j'entr'ouvris. Tout était brûlé et tout était éteint. On pouvait facilement enjamber les décombres et arriver en dehors de la cour du château. Je fis un léger « en, en » pour réveiller ma maîtresse. En effet, elle ouvrit les yeux et me voyant près de la porte, elle y courut et regarda autour d'elle.
« Tout brûlé, tout perdu, je ne verrai plus le château. » Je serai morte avant qu'il soit rebâti, je le sens. Je suis faible et malade, très malade, quoi qu'en dise maman. Viens, mon Cabisson. Viens, sortons maintenant. Il faut que je trouve maman et papa pour les rassurer. Ils me croient morte.
Elle franchit légèrement les pierres tombées, les murs écroulés, les poutres encore fumantes. Je la suivais. Nous arrivâmes bientôt sur l'herbe. Là, elle monta sur mon dos et je me dirigeai vers le village. Nous ne tardâmes pas à trouver la maison où s'étaient réfugiés les parents de Pauline. Croyant leur fille perdue, ils étaient dans un grand chagrin. Quand ils l'aperçurent, ils poussèrent un cri de joie. « Oh, Pauline !» et s'élancèrent vers elle. Elle leur raconta avec quelle intelligence et quel courage je l'avais sauvée. Au lieu de courir à moi, de me remercier, de me caresser, la mère me regarda d'un œil indifférent. Le père, lui, ne me regarda pas du tout.
C'est grâce à lui que tu as manqué de périr, ma pauvre enfant, dit la mère. Si tu n'avais pas eu la folle pensée d'aller lui ouvrir ton écurie, et le dépasser, nous n'aurions pas passé une nuit de désolation, ton père et moi. Mais, reprit vivement Pauline, c'est lui qui m'a... Tais-toi, tais-toi, dit la mère en l'interrompant. On ne parle plus de cet animal que je déteste et qui a manqué causer sa mort.
Pauline soupira, me regarda avec douleur et se tut. Depuis ce jour, je ne l'ai plus revue. La frayeur que lui avait causé l'incendie, la fatigue d'une nuit passée sans se coucher et surtout le froid de la cage augmentèrent le mal qui la faisait souffrir depuis longtemps. La fièvre l'a prise dans la journée et ne la quitta plus. On l'a mis dans un lit dont elle ne devait pas se relever. Le refroidissement de la nuit précédente acheva ce que la tristesse et l'ennui avaient commencé. Sa poitrine, déjà malade, s'engagea tout à fait. Elle mourut au bout d'un mois, ne regrettant pas la vie, ne craignant pas la mort. Elle parlait souvent de moi et m'appelait dans son délire. Personne ne s'occupa de moi. Je mangeais ce que je trouvais. Je couchais dehors malgré le froid et la pluie. Quand je vis sortir de la maison, le cercueil qui emportait le corps de ma pauvre petite maîtresse, je fus saisi de douleur, je quittai le pays et je n'y suis jamais revenu depuis. Chapitre 9. La course d'âne. Je vivais misérablement à cause de la saison. J'avais choisi pour demeure une forêt où je trouvais à peine ce qu'il fallait pour m'empêcher de mourir de faim et de soif. Quand le froid faisait geler les ruisseaux, je mangeais de la neige. Pour toute nourriture, je broutais des chardons et je couchais sous les sapins. Je comparais ma triste existence avec celle que j'avais menée chez mon maître Georget et même chez le fermier auquel on m'avait vendu. J'y avais été heureux tant que je ne m'étais pas laissé aller à la paresse, à la méchanceté et à la vengeance. Mais je n'avais plus aucun moyen de sortir de cet état misérable, car je voulais rester libre et maître de mes actions. J'allais quelquefois aux environs d'un village situé près de la forêt pour savoir ce qui se passait dans le monde. Un jour, c'était au printemps, le beau temps était revenu, je fus surpris de voir un mouvement extraordinaire. Le village avait pris un air de fête, on marchait par bandes, chacun avait ses beaux habits des dimanches, et ce qui m'étonna plus encore, tous les ânes du pays y étaient rassemblés. Chaque âne avait un maître qui le tenait par la bride. Ils étaient tous peignés, brossés, plusieurs avaient des fleurs sur la tête, autour du cou, et aucun n'avait ni bas ni selle. C'est singulier, pensais-je. Il n'y a pourtant pas de foire aujourd'hui. Que peuvent donc faire ici tous mes camarades nettoyés, pomponnés? Et comme ils sont dodus! Ah, on les a bien nourris cet hiver. En achevant ces mots, je me regardai. Je vis mon dos, mon ventre, ma croupe, maigre, mal peigné, les poils hérissés, mais je me sentais fort et vigoureux. J'aime mieux penser être laid, mais leste et bien portant. Mes camarades que je vois si beaux, si gras, si bien soignés, ne supporteraient pas les fatigues et les privations que j'ai endurées tout l'hiver. Je m'approchai pour savoir ce que voulait dire cette réunion d'âne, lorsqu'un des jeunes garçons qui les tenait m'aperçut et se mit à rire. « Tiens, s'écria-t-il, voyez donc, camarade, le bel âne qui nous arrive. Est-il bien peigné et bien soigné et bien nourri ?» s'écria un autre. « Vient-il pour la course ?»« Ah, s'il y tient, il faudra le laisser courir, » dit un troisième. « Il n'y a pas de danger qui gagne le prix. » Un rire général accueillit ces paroles. J'étais contrarié, mécontent des plaisanteries bêtes de ces garçons. Pourtant, j'appris qu'il s'agissait d'une course. Mais quand et comment devait-elle se faire? C'est ce que je voulais savoir, et je continuai à écouter et à faire semblant de ne rien comprendre de ce qu'ils disaient. « Va-t-on bientôt partir ?» demanda un des jeunes gens. « Je n'en sais rien. On attend le maire. » Le maire est Marie-Héreux, tu sais, c'est le chef du village.
Où allez-vous faire courir vos âmes?
Dit une bonne femme qui arrivait. Dans la grande prairie du Moulin, mère Tranchet.
Combien êtes-vous d'âmes ici présents?
Nous sommes 16, sans vous compter, mère Tranchet.
Tiens, c'est un marin, toi. Et que doit gagner le premier arrivé?
D'abord l'honneur, et puis une montre d'argent.
Je serais bien aise d'être une bourrique pour gagner la montre. Je n'ai jamais eu de quoi en avoir une.
Ah, oh, ben si vous aviez amené un bourrique, vous auriez couru la chance.
Où veux-tu que je prenne un bourrique? Est-ce que j'ai jamais eu de quoi en nourrir et de quoi en payer un?
Cette bonne femme me plaisait. Elle avait l'air beau et gai. J'eus l'idée de lui faire gagner la montre. J'étais bien habitué à courir. Tous les jours dans la forêt, je faisais de longues courses pour me réchauffer et j'avais eu jadis la réputation de courir aussi vite et aussi longtemps qu'un cheval. Voyons, me dis-je, essayons. Si je perds, je n'y perdrai rien. Si je gagne, je ferai gagner une montre à la mère Tranchet qui en a bonne envie. Je partis au petit trot et j'allais me placer à côté du dernier âne. Je pris un air fier et je me mis à braire avec vigueur. Hola, hola, l'ami, s'écria André. Vas-tu finir ta musique? Des camps, bourri, tu n'as pas de maître, tu es trop mal peigné, tu ne peux pas courir. Je me tus, mais je ne bougeais pas de ma place. Les uns riaient, les autres se fâchaient. On commençait à se quereller lorsque la mère Tranchet s'écria.
Il n'a pas de maître, il va avoir une maîtresse. Je le reconnais maintenant. C'est Cadisson, l'âne de cette pauvre mademoiselle Pauline. Ils l'ont chassé quand la petite ne s'est plus trouvée là pour le protéger. Et je crois bien qu'il a vécu tout l'hiver dans la forêt, car personne n'a la revue depuis. Je le prends donc aujourd'hui à mon service. Il va courir pour moi.
Tiens, c'est Cadisson, s'écria-t-on de tous côtés. J'en ai entendu parler, ce fameux Cadisson. Mais si vous faites courir pour vous, mère Tranchet, il faut tout de même déposer dans le sac du maire une pièce de 10 francs.
Qu'à cela me tienne, mes enfants. Voici ma pièce. Mais il faut pas m'en demander d'autres, car je n'en ai pas beaucoup.
Ah ben, si vous gagnez, vous n'en manquerez pas, car tout le village a mis au sac. Il y a plus de 2000 francs. J'approchai de la mère Tranchet et je fis une pirouette, un saut, une ruade, d'un air si délibéré que les jeunes garçons commencèrent à craindre de me voir gagner le prix. Écoute, Jeannot, dit André tout bas, tu as eu tort de laisser la mère Tranchet mettre au sac. La voilà maintenant qui a le droit de faire courir Cadisson. Et il m'a l'air alerte et disposé à nous souffler la montre et l'argent. « Bon, c'est nigaud, répondit Jeannot. Tu ne vois donc pas la figure qu'il a, ce pauvre Cadisson? Il va nous faire rire. Il n'ira pas loin, va. Je n'en sais rien, répondit André. Si je lui présentais de l'avoine pour le faire partir. Bah, et les 10 sous de la mère Tranchet, donc, dit Jeannot. Ah, bah, l'homme parti, on les lui rendrait. Au fait, dit Jeannot, Cadisson n'est pas plus à elle qu'à moi ou à toi. Va chercher un picotin, c'est-à-dire un sac d'avoine, et tâche de le faire partir sans que la mère Tranchet s'en aperçoive. J'avais tout entendu et tout compris. Aussi, quand André revint avec un picotin d'avoine dans son tablier, au lieu d'aller à lui, je me rapprochai de la mère Tranchet qui causait avec des amis. André me suivit. Jeannot me prit par les oreilles et me fit tourner la tête, croyant que je ne voyais pas l'avoine. Je ne bougeai pas davantage, malgré l'envie que j'avais d'y goûter. Jeannot commença à me tirer, André à me pousser, et moi je mis à braire de ma plus belle voix. La mère Tranchet se retourna et vit la manœuvre d'André et de Jeannot.
Ce n'est pas bien ce que vous faites là, mes garçons. Mais puisque vous m'avez fait mettre ma pauvre pièce au sac de course, faut pas m'enlever Cadichon. Vous avez peur de lui, est-ce qu'il me semble?
Peur d'un sale bourri comme ça? Oh, pour ça, non. Nous n'avons pas peur.
Et pourquoi vous le tiriez pour l'emmener?
Ben, c'était pour lui donner un picotin.
C'est différent. C'est gentil, ça. Versez-lui ça par terre, qu'il mange à son aise. Et moi qui croyais que vous vouliez lui donner un picotin de malice. Voyez pourtant comment on se trompe.
André et Jeannot étaient honteux et mécontents, mais ils n'osaient pas les faire voir. Leurs camarades riaient de les voir attrapés. La mère Tranchet se frottait les mains, et moi, j'étais enchanté. Je mangeais mon avoine avec avidité, je sentais que je prenais des forces en la mangeant, j'étais content de la mère Tranchet, et quand j'eus tout avalé, je devins impatient de partir. Enfin, il se fit un grand tumulte. Le maire venait donner l'ordre de placer les ânes. On les rangea tous en ligne, je me mis modestement le dernier. Quand je parus seul, chacun demanda qui j'étais, à qui j'appartenais. À personne, dit André.
À moi, cria la mère Tranchet.
Il fallait mettre au sac de course, mère Tranchet, dit
le
maire.
Oui, monsieur le maire.
Bon, alors inscrivez la mère Tranchet, dit le maire.
C'est déjà fait, monsieur le maire, répondit le greffier.
C'est bien, dit le maire. Tout est prêt? 1, 2, 3, partez!
Les garçons qui tenaient les ânes lâchèrent chacun le sien en lui donnant un grand coup de fouet. Clac! Tous partirent. Bien que personne ne m'eût retenu, j'attendis honnêtement mon tour pour me mettre à courir. Tous avaient donc un peu d'avance sur moi. Mais ils n'avaient pas fait 100 pas que je les avais rattrapés. Me voici à la tête de la bande, les devançant sans me donner beaucoup de mal. Les garçons criaient, faisaient claquer leurs fouets pour exciter leurs ânes. Je me retournais de temps en temps pour voir leurs mines effarées, pour contempler mon triomphe et pour rire de leurs efforts. Mes camarades, furieux d'être distancés par moi, pauvres inconnus à mine piteuse, redoublèrent d'efforts pour me rejoindre, me devancer et se barrer le passage les uns aux autres. J'entendais par derrière moi des cris sauvages, des ruades, des coups de dents. Deux fois je fus atteint, presque dépassé par l'âne de Jeannot. J'aurais dû me servir des mêmes moyens qu'il avait employés pour devancer mes camarades, mais je dédaignais ces indignes manœuvres. Je vis pourtant qu'il me fallait ne rien négliger pour ne pas être battu. Fin de la première piste de la deuxième cassette, page 58, Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Séguier.